Je cède immédiatement la parole à M. Berger.
Force et violence, nous avons un peu moins d'une heure pour traiter ce thème. Je le ferai donc en un seul exposé. Force et violence, chacun de ces termes a de multiples sens. Le premier, la force, évoque à la fois le glaive et la vertu. Le second, la violence, est le plus souvent associé à la notion d'abus de la force, mais ça n'est pas si simple. Faute d'attribuer aux mots un sens exact, on les transforme très vite en machines de guerre. On connaît bien cela avec les mots de liberté ou d'égalité, et c'est le cas avec le mot de violence et avec l'expression de non-violence. En prenant l'habitude, par exemple, de baptiser violence tout rapport de force et d'autorité entre parents et enfants, entre maîtres et élèves, entre gardiens et prisonniers, entre employeurs et salariés, on a fini par tout embrouiller. Il est ainsi logique que la première réponse à la question « Contre la violence, que pouvons-nous faire ?» consiste à remettre un peu d'ordre dans les mots et dans les idées. Partant de constats, nous serons conduits à mettre en évidence la source de toute violence pour dégager cette conviction que le vrai problème n'est pas dans l'emploi des moyens, mais qu'il est en effet des formes de violence douce et que l'emploi de la force est parfois un devoir. Mais nous voulons montrer que le vrai problème réside dans la distinction de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est créateur de désordre et de ce qui, au contraire, est conforme à l'ordre et concourt à le rétablir. Il nous faudra donc expliciter cette notion d'ordre qui est directement liée à la notion de force. Cet exposé est ainsi construit sur le plan suivant que vous avez au tableau. Je signale que cet exposé fait l'objet d'un polycopier que vous trouvez sur la table du fond pour $1. Cet exposé donc est construit sur le plan suivant. Je dégagerai d'abord une brève synthèse de diverses formes de violence qui marquent notre société moderne. Je déduirai de ce constat que tout le monde s'entend à considérer comme un désordre. Je déduirai donc de ce constat que la cause en est précisément le rejet de toute notion d'enracinement et d'ordre. Nous pourrons alors poser la question, comment remédier à cette situation ? Et nous devrons dégager que le retour à l'ordre, que le redressement du désordre, exige la mise en œuvre d'une certaine violence que l'on pourra appeler violence reconstructrice. Nous devrons mettre en évidence donc la notion de violence juste et de violence injuste et montrer que le vrai problème, comme je l'ai dit, est bien celui du juste et de l'injuste. Et je concrétiserai cette violence reconstructrice par plusieurs illustrations. Le problème des sanctions exigées par les fautes et d'autre part le problème de la guerre. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a dans l'homme une pulsion agressive. Mais en fait, on n'a rien expliqué quand on s'est seulement contenté d'évoquer cet instinct agressif contre lequel on ne pourrait rien. Pour analyser la violence, pour y trouver des remèdes, étudier ses causes profondes dans la société actuelle, et c'est l'objet des premiers constats, donc, que je voudrais faire. Par bien des aspects, notre société est dépressive. C'est l'expression qu'utilise le sociologue Tony Anatrella dans une assez bonne analyse publiée sous le titre « Non à la société dépressive », qui est un livre qui a été publié chez Flammarion. Nous en avons fait dans l'Action familiale et scolaire une analyse. Nous ne le suivons pas en tout point, mais il y a là une bonne analyse tout de même d'un sociologue, un prêtre d'ailleurs, je ne sais pas de quelle congrégation il est, Tony Anatrella. Et je le cite, il écrit « Une ambiance de mort et l'idée d'un univers privé de perspective semble être le fait de nos sociétés qui se délie de l'intérieur et implose au fur et à mesure que les causes politiques se révèlent à l'épreuve du temps et des réalités n'être que des illusions. Entraînés dans cet effondrement, Nombreux sont ceux qui se plaignent de craquer, d'être vidés, épuisés, et ne parviennent pas à retrouver leur dynamisme vital. Et cette société dépressive est une société de violence. Le dépressif ne fait pas de projet, il se laisse conditionner par les événements immédiats et tenir un trela continu, casser, détruire ou se droguer sont autant d'attitudes pour signifier que le dépressif donc ne veut pas ou ne peut pas exister. Il s'attache à la promesse illusoire de changer la vie au lieu de la découvrir. Nous allons reprendre un peu les différents points de cette synthèse faite, je le disais, par Tony Anatrella. Il parle de société qui se délie de l'intérieur. Et Gustave Thibon emploie l'expression de corruption du lien social. Un repli sur la subjectivité individuelle ou sur des groupes particuliers constitue des sortes d'îlots défendant leurs propres intérêts. Et tout cela crée une attitude défensive qui favorise les phénomènes de rupture. Les relations avec le milieu social deviennent difficiles, voire impossibles, et lorsque des conflits éclatent, ils sont très rapidement durs et cruels. Une des origines de la dissolution du tissu social est sans aucun doute l'altération du lien affectif conjugal, qui conduit à une augmentation dramatique du nombre des divorces. Au sein des groupes eux-mêmes, Gustave Thibon constate une dégradation de l'amitié. Celle-ci, dit toujours Gustave Thibon, dans bien des cas s'est dégradée en camaraderie vulgaire et brutale. L'appartenance à la bande, et ce mot ne signifie pas nécessairement une association de malfaiteurs, remplace l'intimité personnelle et les échanges d'idées et de sentiments. Or, la bande recherche très souvent des distractions et des aventures plus ou moins teintées d'agressivité, et cette violence se multiplie par le grégarisme. L'augmentation de la délinquance juvénile tient à la corruption, à cette corruption du lien social. Ambiance de mort, dit aussi Tony Anatrella. Nos sociétés tiennent et entretiennent sur la vie un véritable discours de mort. On ne peut que constater le succès de ce langage de mort qui envahit les esprits et qui conduit notamment à l'avortement. L'euthanasie, le suicide, la toxicomanie et toute autre forme de violence dont, là encore, la finalité est de casser. Le Parlement européen, récemment, a été saisi de projets de loi qui expriment le droit au suicide préventif assisté. On accrédite l'idée que la vie, selon les circonstances, peut être sans valeur. La mère et le médecin, symbole de vie, deviennent un symbole de sélection et de négation de la vie. Ce renversement mortifère ne fait en fait qu'exprimer le besoin de la société, plus ou moins conscient, de s'autodétruire. S'attacher à changer la vie au lieu de la découvrir, c'est un des derniers points que soulignait Tony Anatrella. Une telle entreprise, changer la vie au lieu de la découvrir, donc quitter le réel en quelque sorte, une telle entreprise menée sans autre critère que le changement, se traduit par la révolte dans tous les domaines contre les valeurs traditionnelles. C'est là une dominante de notre société qui vit en quelque sorte, on pourrait dire, dans la honte de ses origines. Elle a comme un besoin de dénoncer, de critiquer tous les modèles. Elle a comme un besoin de détruire ce à partir de quoi nous vivons en fait socialement. La notion de loi, par exemple, n'a plus de sens, ou bien ce sens se trouve détourné. Chacun est amené à se fabriquer, à bricoler, pourrait-on dire, une loi à la mesure de ses besoins, il est amené à se fixer ses propres limites. Le respect d'autrui, le bien commun, n'étant plus des critères de vie en société, toute délinquance trouve sa justification, on dira, puisqu'il a pu se payer les chaussures que je lui ai prises, il pourra s'en acheter d'autres. Quand on interdit d'interdire, quand on s'attache à déculpabiliser, on livre la société à ses démons, à l'exaltation et à la pratique de la violence. Révolte à tous les niveaux de l'humain et du social. On pourrait développer ici ce que certains considèrent, entre guillemets, comme la libération sexuelle, qui en fait ramène la sexualité à un bien de consommation, n'exigeant aucun engagement. Et la sexualité sombre alors dans l'insignifiance, et c'est d'ailleurs là la perversion, le cœur et l'âme paraissent anachroniques, mais alors, c'est la volonté de puissance qui intervient. qui remplace l'idéal. C'est d'asservissement ou d'esclavage, et donc de violence, qu'il faut parler, et non de libération. Pour le monde artistique et littéraire, l'essentiel est de suspendre ou de chercher à dépasser toute mesure, à briser toute règle. La violence, selon une expression assez évocative de Gustave Thibon, la violence défigure ce qu'elle est incapable de transfigurer. Ces diverses révoltes, ces libérations, ce goût pour la violence, ne doivent pas être interprétées comme le jaillissement anarchique d'une vitalité mal contenue. Il en fut peut-être ainsi à certaines époques, pourrait évoquer l'Antiquité ou la Renaissance, où à certains moments la violence s'alliait souvent à une vigueur créatrice. Mais aujourd'hui, à quelques exceptions près, il s'agit beaucoup plus de la réaction compensatrice d'une faiblesse qui mine les sentiments et les gestes de la force. L'impudeur tient lieu de génie. Et il y a dans toutes ces attitudes un mélange d'exaspération et d'impuissance. Le dur est très souvent un mou qui joue au fort. Il y a, je le disais, un mélange d'exaspération et d'impuissance, mais un mélange, un réflexe de compensation et de fuite. Et puis je voudrais insister, pour achever ces constats, sur la violence que secrètent les systèmes politico-économiques de notre société contemporaine. Qu'il s'agisse du libéralisme ou du socialisme, que le socialisme alimente un projet totalitaire, il n'est pas nécessaire de le démontrer, l'histoire récente est suffisante. Mais notre monde occidental libéral n'échappe pas à ce péril, même si la menace en est plus insidieuse. Bien sûr, l'état d'esprit qui anime ce courant libéral peut avoir certains résultats heureux, certains, je ne dis pas tous, mais certains résultats heureux en économie ou en politique, mais son efficacité ne doit pas masquer qu'il repose en fait sur deux caractères essentiels qui sont le matérialisme et l'individualisme. Tous deux faussent les rapports sociaux et débouchent sur l'écrasement des plus faibles par les plus forts. Le père Michel Skoyans, dans un livre assez remarquable, qui s'intitule « La dérive totalitaire du libéralisme », montre que cette dérive du libéralisme est totalitaire, justement, par nature, parce qu'elle s'attaque aux faibles dans leur double dimension physique et psychique, qu'elle est totalitaire par son but, car elle vise à consolider et à étendre la domination des nantis à l'échelle planétaire, qu'elle est totalitaire dans ses moyens, en utilisant des disciplines scientifiques et techniques, d'ailleurs les plus diverses, et en faisant tout spécialement appel aujourd'hui aux techniques biomédicales. Cette dérive bénéficie des procédés de propagande les plus efficaces, et la récente conférence du Caire, sa tentative d'ériger l'avortement en droit de l'homme sous la pression du mondialisme en général et de l'administration Clinton en particulier, en est une parfaite illustration. Et de son côté, Philippe Saint-Mar, dans un ouvrage très récent intitulé « L'économie barbare », analyse avec beaucoup de précision la nouvelle barbarie qui est en train de submerger l'Occident. Il affirme que l'homme occidental est victime du tout économique, qu'il est malade de son environnement physique social et que cet environnement est lui-même malade de l'économie qui le dégrade sans cesse davantage par son matérialisme et son ultralibéralisme. Notre société, dit Philippe Saint-Mar, devient barbare parce que notre économie l'est déjà. La violence de l'économie produit la violence de la société. L'économique, d'abord, transforme le légitime souci de ce qui est nécessaire à l'existence en une passion exclusive pour les biens matériels. Mais le propre des biens matériels est qu'ils ne peuvent se partager à l'infini. Ce que l'on acquiert, c'est autant dont l'autre se sent privé. Chacun en vient à considérer qu'il a droit à tout ce à quoi ses forces lui permettent de prétendre. Dès lors, nécessairement tôt ou tard, l'autre se dresse comme un obstacle à son propre désir ou est ramené au rang d'instrument pour son plaisir. À cette violence qui naît dans les relations des hommes entre eux, il faut ajouter un autre type de violence, né de l'échec d'une telle société à procurer les bases du bonheur collectif. Une double réaction de rejet monte irrésistiblement, casser cette société ou s'en évader. Et ces deux comportements, soit casser, soit la rupture, soit l'évasion, ces deux comportements sont souvent associés chez un même individu.
rejet par la violence sous forme de délinquance et d'agressivité généralisée, rejet par la fuite grâce aux produits d'évasion que sont l'alcool, les tranquillisants, la drogue, etc., et aux comportements d'évasion, suicide par exemple, tout cela crée une crise permanente et qui peut devenir à tout moment explosive. J'achèverai là ces constats. Ils mettent en évidence la face, je dirais, destructrice de la violence. Je me suis attaché à quelques aspects fondamentaux dont les conséquences se trouvent aggravées, il faut le souligner, par le chômage, l'immigration, par certaines conditions d'habitat. Mais je dirais que le chômage, l'immigration et ces conditions d'habitat, ces phénomènes abaissent sensiblement le point d'inflammation au point de masquer parfois les causes profondes de l'explosion, mais ils ne créent pas le caractère violent de nos sociétés. Et c'est ce caractère violent que je voulais dégager. Les cinq aspects que j'ai envisagés, corruption du lien social, ambiance de mort, révolte, dérive totalitaire de la société contemporaine, conséquences de l'économique d'abord, traduisent le fait que la société ne fournit plus à l'individu un projet cohérent de vie reposant sur des valeurs objectives, un projet qui comporte de véritables raisons de vivre. On peut dire que c'est faute d'ancrer l'amitié sur un idéal commun positif, sur un réel bien commun, que la société se dénoue. La subjectivité ne peut engendrer, c'est inhérent à la subjectivité, que discorde et violence. Et c'est faute de considérer qu'il y a une vérité de la sexualité que l'on parle de libération sexuelle. Faute de référence à des critères universels, le monde moderne s'acharne à affirmer son pouvoir sur les êtres et les choses avec le seul souci du changement et, redisons-le, faute de référence, tous les moyens deviennent bons. Dans ce monde sans loi, où chacun veut profiter sans délai de son action, avoir tout tout de suite, les effets de la violence sont effectivement souvent plus satisfaisants que ceux d'un effort de construction qui exige la durée. Faute de référence permanente et universelle, la société ne peut être que permissive, et la permissivité tire l'homme vers le bas, vers la violence la plus brutale et la plus cruelle. Et pourtant, ces références existent. Quelles sont-elles? Eh bien, ce sont ces principes inscrits au cœur de l'homme et que l'homme peut lire quand il n'est pas aveuglé par la passion. Ces principes sont accessibles à la droite raison. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Tu ne prendras pas la femme de ton voisin, tu respecteras ton père et ta mère, tu ne connaîtras qu'un seul Dieu, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Principe de l'ordre naturel, c'est-à-dire de l'ordre attaché à la nature humaine. Principes qui sont comme le mode d'emploi de l'homme, son chemin vers le bonheur, je dirais, mode d'emploi tel que de l'homme tel que l'a conçu le Créateur. Principe que l'on découvre par l'observation du réel et qui ne sont pas à inventer. Pour combler les lacunes de notre intelligence imparfaite, le Créateur en a confirmé cette loi naturelle, a aidé l'homme à en achever l'acquisition, en quelque sorte, par la révélation qu'il en fit à Moïse. Le décalogue est la synthèse de la loi naturelle que la civilisation chrétienne, dont nous sommes les héritiers, n'a cessé de rappeler. Et c'est pourquoi refuser au christianisme sa dimension sociale et le traiter comme un sujet ringard relève d'une grave inconséquence. La violence, sous sa face destructrice, résulte en un mot du non-respect de l'ordre naturel. Elle est le fruit du désordre. Et si la violence est le fruit du désordre, quels moyens utiliser pour rétablir l'ordre? Donc la deuxième partie de cet exposé. On pourrait dire qu'il y a plusieurs types de réponses. Il y a la réponse des non-violents, dont la position repose sur la conviction que l'on ne peut viser réellement la paix qu'avec des moyens pacifiques. Et puis, il y a les réponses qui supposent l'emploi de la force. Et donc, l'emploi de la force pour rétablir l'ordre, remédier au désordre créé par le non-respect de l'ordre naturel. Les réponses qui supposent donc, je disais, l'emploi de la force, et donc réponses qui comportent l'emploi de la violence que l'on caractérisera dans cette deuxième partie de violence reconstructrice. Et c'est surtout de cette violence reconstructrice que je voudrais parler. Il y a bien deux faces, donc, à la violence. La violence naît du désordre, nous l'avons vu dans toute la première partie, soit, donc, qu'elle réagisse contre ce désordre, soit qu'elle lui appartienne. Dans le premier cas, quand elle réagit contre le désordre, elle apparaît comme reconstructrice, et dans le second cas, elle paraît malfaisante. Le meurtrier qui mutile sa victime pour la dévaliser et le chirurgien qui ampute pour sauver sont tous les deux violents et utilisent, des mêmes moyens violents. Ce n'est pas le moyen qui fait effectivement que dans un cas la violence puisse être bonne et dans l'autre mauvaise. Le Christ a fouetté les Juifs pour des Juifs du temps, et il rétablissait l'ordre, il luttait contre le désordre, et les Juifs ont fouetté le Christ, et c'était une injuste violence. C'est pas le maniement du fouet qui donc caractérise la violence. La violence peut être sauvegarde, et elle peut être subversion. Certains condamnent la violence d'où qu'elle vienne. Je pense que c'est là une façon de se donner bonne conscience en masquant donc le vrai problème. Ils évitent ainsi de définir de quelle violence il s'agit. Ils esquivent le problème fondamental du juste et de l'injuste. Et c'est jouer les doctrinaires à bon compte que de juger de la violence en général, alors qu'il s'agit en particulier de juger de la finalité dans l'emploi de la force. Le « d'où qu'elle vienne », donc, dans la condamnation de la violence « d'où qu'elle vienne », est ambigu, voire hypocrite. Le vrai problème, c'est celui que posait en termes très simples saint Augustin, disant « En tout cela, que faut-il considérer, sinon lequel agit pour la vérité, lequel pour l'iniquité, lequel en vue de nuire, lequel en vue de corriger ?» Le problème fondamental n'est pas en réalité celui de la violence, donc, il est celui du juste et de l'injuste, de la vérité et de l'erreur. C'est le désordre, en fait, c'est le désordre lui-même qui porte en lui-même un signe de contradiction, comme sont apparemment contradictoires ces deux sens de la violence, ces deux aspects de la violence. Et si le taux de violence ne cesse de croître dans le monde, ce n'est pas parce que le monde aurait comme un goût naturel de la violence, c'est parce que le désordre y est en progression constante. Et c'est moins la violence que le désordre, donc, qu'il faut combattre. Et pour cela, il faut savoir et croire qu'il y a un ordre vrai. Il faut en connaître les lois, les exigences. Et on peut dire que plus une société perd le sens de la vérité, plus elle perd le sens de l'ordre, plus elle perd en force douce, plus elle devient société de violence, soit que cette violence, donc, provienne des éléments subversifs, soit qu'elle provienne d'éléments décidés à sauver la société du chaos envahissant. De même que, dans la première partie, nous avons constater la violence fruit du désordre, je voudrais évoquer maintenant donc la violence visant à rétablir l'ordre. On pourrait regrouper en trois chapitres cette illustration de la violence reconstructrice. On pourrait parler de la violence éducatrice, de la violence répressive, de la violence défensive. Je n'insisterai pas sur la violence éducatrice, sinon peut-être pour souligner l'ambiguïté d'une expression telle que « éduquer sans contraindre », qui n'a pas grand sens. La culture, disait le professeur Alain, qui n'est pas suspect d'être un homme de droite, ça commence par un embêtement. Certes, l'éducation doit conduire à la liberté, mais il ne faut pas se tromper sur le sens du mot « liberté ». Un arbre auquel on impose une greffe souffre violence, et si la greffe prend, on a des fruits civilisés et non pas sauvages. Sous le titre de la violence répressive, j'évoquerai la question des justes sanctions. Et sous celui de la violence défensive, qui regroupe tout ce que l'on peut appeler la légitime défense, j'évoquerai la question de la juste guerre. Vous voyez, dans ces expressions, juste sanction, juste guerre, c'est bien, et qui sont des expressions consacrées, je dirais, c'est bien la notion de justice qui est la première. Et dans ces deux illustrations, juste sanction, juste guerre, je prendrai pour référence l'enseignement de l'Église catholique. Juste sanction. On peut ici citer le pape Pie XII, et notamment ses nombreux discours aux juristes catholiques, je cite en particulier son discours aux juristes catholiques de décembre 1954, de février 1955, ainsi que son intervention à un congrès international de droit pénal en 1953. Pidou souligne que la majorité des théories modernes du droit pénal expliquent la peine et la justifie en fin de compte comme une mesure de protection de la communauté et en même temps comme une tentative pour ramener le coupable à l'observation du droit. Tentative que, derrière cette tentative, on se dessine ce que l'on appelle l'aspect médicinal de la peine. Et Pidou souligne que ces théories, en fait, en ne voyant dans la sanction que la protection de la société ou l'aspect médicinal de la peine, donc ces théories refusent de considérer l'expiation du délit commis qui sanctionne la violation du droit comme fonction capitale de la peine. Certes, la protection de la communauté doit être assurée, mais le but final de la peine se situe sur un plan supérieur. Le nœud de la faute, c'est l'opposition libre à la loi reconnue obligatoire, c'est la rupture et la violation consciente de l'ordre juste. Et une fois qu'elle s'est produite, une fois que la faute s'est produite, il est impossible de faire en sorte qu'elle n'existe pas. La victime d'une injustice peut parfaitement renoncer librement à la réparation, mais l'État, dans son souci de défense du bien commun, doit assurer cette réparation. C'est une exigence fondamentale donc de la justice. Et je cite ici donc le pape Pie XII disant « Il s'agit tout d'abord non pas de protéger les biens assurés par le droit, mais le droit lui-même. Rien n'est aussi nécessaire à la communauté nationale et internationale que le respect de la majesté du droit, comme aussi l'idée salutaire que le droit est en lui-même sacré et défendu, et que par conséquent celui qui l'offense s'expose à des châtiments et les subit en effet. » D'où cette distinction tout à fait traditionnelle entre peine médicinale, peine vindicative, vindicative de vindicare, venger la violation du droit. La fonction de protection est en fait comprise dans ces deux termes. Et l'article 1336 du nouveau droit canon distingue, comme le faisait l'ancien, peine médicinale et peine expiatoire. Cette attitude, dit encore Pie XII, répond en un sens plénier à la parole bien connue de l'apôtre aux Romains, « Ce n'est pas en vain qu'il porte le glaive, dit saint Paul de l'État, il est ministre de Dieu, l'instrument de sa colère contre les malfaiteurs. » Et Pie XII souligne que les références de l'Écriture ne sont pas à considérer comme déterminées par les conditions du temps, des conditions de culture, mais par la nature même de l'homme et par la société humaine voulue par cette nature. Il s'agit bien du fondement essentiel du pouvoir pénal et de sa finalité immanente. Il s'agit d'un rappel d'ordre naturel. Et toutes ces réflexions, je dirais, sont reprises dans le récent catéchisme de l'Église catholique, rappelant que la peine a pour premier effet de compenser le désordre introduit. Et il rappelle qu'au titre du bien commun, l'enseignement traditionnel de l'Église reconnaît le bien fondé du droit et du devoir de l'autorité publique légitime de sévir par des peines proportionnées à la gravité du délit, sans exclure, dans des cas d'une grande gravité, la peine de mort. Pour des raisons analogues, poursuit le catéchisme, les détenteurs de l'autorité ont le droit de repousser par les armes les agresseurs de la cité dont ils ont la charge. Les derniers papes, le concept de juste guerre n'est remis en cause aujourd'hui par aucun document officiel. Qu'il s'agisse de conférences épiscopales, du Saint-Siège, le concept lui-même de juste guerre, l'expression de juste défense, je préfère juste guerre, n'est pas remise en cause. Ce concept peut être résumé ainsi, au cas où les moyens pacifiques sont impossibles ou inefficaces, la guerre de défense contre l'agression ou la menace grave d'agression, loin d'être un crime, est un devoir. Devant un agresseur, par ailleurs, devant un agresseur dont la déloyauté est certaine, on peut même être amené légitimement à ouvrir le premier les hostilités, à attaquer sans être pour cela agresseur. Ce concept étant énoncé, il faut tout de suite dire que l'Église, s'appuyant sur le droit naturel, a défini des conditions, d'une part pour l'engagement dans la guerre, et d'autre part pour le déroulement de la guerre, qu'on a l'habitude d'appeler Jus ad bellum, le droit d'entrer, de faire la guerre, le droit d'entrer dans la guerre, le droit de déclarer la guerre, si vous voulez. Et le jus in bello, c'est le droit, les règles de conduite dans la guerre. Quelles sont les règles pour l'entrée dans la guerre, je dirais? Eh bien, je cherche une affaire. Il y a d'abord la juste cause. Et là encore, je citerai Pie XII, disant, parmi les biens, il en est de telle importance pour la communauté humaine que leur défense contre une agression injuste est sans aucun doute pleinement justifiée. Cette défense s'impose également à la solidarité des nations qui a le devoir de ne pas abandonner le peuple victime d'une agression. L'assurance qu'un tel devoir ne demeurera pas sans être rempli servira à décourager l'agresseur et par suite à éviter la guerre, ou du moins dans la pire des hypothèses, à en abréger les souffrances. Donc il est des biens qui justifient, dont la défense justifie, des biens qui sont tels que leur défense devient un devoir. Ces biens essentiels sont ceux qui permettent d'atteindre notre fin naturelle et surnaturelle, et l'on peut dire que la patrie rassemble une partie importante de ces biens. Saint Thomas a pu dire que la patrie était un bien commun divin. La défense de la foi, bien sûr. Certains pensent qu'on ne peut ne prendre les armes que pour défendre le pétrole. La défense de la foi est peut-être un bien que l'on est amené à défendre par les armes, je dirais. Et quand on parle de juste cause, là encore, on voit bien que l'Église place la justice avant le refus de la violence. Le deuxième critère du droit d'entrer dans la guerre, en dehors de la juste cause, après la juste cause, c'est cette notion de dernier recours. La guerre est un dernier recours, d'où l'importance attachée par les papes à une véritable et efficace organisation internationale d'arbitrage, et non pas de marchandage, bien sûr. Troisième point, la guerre doit avoir une probabilité raisonnable de succès. Pie XII écrit, lorsque les dommages entraînés par la guerre sont plus graves que ceux de l'injustice que l'on devrait tolérer, on peut avoir l'obligation de subir l'injustice. Le quatrième point, c'est le déclenchement par une autorité légitime instituée pour le bien commun. Nous verrons que ce n'est pas si simple aujourd'hui. Ça a paru simple pendant très longtemps. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien qui déclenche effectivement la guerre. L'intention droite, enfin, la doctrine rappelle que ce qui justifie la poursuite de la guerre, ça ne peut être que la réparation de l'injustice pour laquelle on est entré en guerre. Le succès militaire n'est donc qu'un moyen, et les négociations finales doivent être centrées sur la juste cause à rétablir. Ce sens, la reddition sans condition n'est certainement pas conforme à un tel principe. Critère du droit d'entrée, des éléments de conduite de la guerre, il est certain que devant l'ampleur des possibilités de destruction, aujourd'hui, cette question est assez difficile à résoudre. Mais deux critères cadrent ce juste esprit, ou pour être plus précis, fixent, je dirais, des limites à l'usage des moyens militaires engagés pour une juste cause, le critère de proportionnalité, qui est apparu avec Vittoria au XVIe siècle, qui veut que les moyens mis en œuvre et les destructions ne soient pas hors de proportion avec les enjeux. On pourrait dire, on ne prend, de façon simpliste peut-être, que l'on ne prend pas un marteau pour écraser une mouche. Mais ce principe n'est pas si simple non plus d'emploi. À une époque où des risques d'escalade sont grands, on peut se demander s'il ne vaut pas mieux frapper tout de suite un grand coup. Donc, pas si simple. Deuxième critère, ce que l'on appelle le critère, qui est baptisé le critère de discrimination. Critère de proportionnalité, donc, et critère de discrimination. Lui, il est apparu dès la fin des années 900, au synode de Charroux, et qu'il précise qu'il n'est pas permis de viser intentionnellement des populations civiles. Ce critère donne lieu à des interprétations qui sont souvent discutables. D'abord, je soulignerai le terme « intentionnellement ».
interviennent ici certains aspects de la règle que l'on appelle du volontaire indirect, si vous voulez. Un mal ne peut jamais être voulu directement, mais il peut arriver qu'on doive l'accepter comme la conséquence inévitable d'une action moralement autorisée. Le réalisme impose donc, c'est vrai, d'admettre que des civils puissent être tués dans la guerre, mais ils ne doivent jamais être la cible visée. Ceci rappelé, il est sur ce sujet un point parfaitement net, donc, qui était énoncé par Pie XII, qui était repris par Vatican II, qui est constant, et qui affirme que donc tout acte de guerre qui tente indistinctement à la destruction de villes entières ou de vastes régions avec leurs habitants est un crime contre Dieu et contre l'homme lui-même qui doit être condamné fermement et sans hésitation. Pie XII avait introduit un autre critère qui était celui des effets contrôlables des armes. Ce critère n'a pas été repris d'ailleurs par Vatican II, mais Pie XII disait la guerre totale moderne, en particulier la guerre qu'on en appelait à l'époque ABC, atomique, bactériologique, chimique, est-elle permise? Et Pie XII disait, quand la mise en œuvre de ces moyens entraîne une extension telle du mal qu'il échappe entièrement au contrôle de l'homme, son utilisation doit être rejetée comme immorale. Donc le non-contrôle des effets d'une arme, pour Pie XII, devait contribuer à l'éliminer. Le texte, je le disais, de Vatican II est une condamnation claire et sans appel, c'est même la seule qui est contenue sur le sujet de la guerre, dans les travaux du Concile. Oui. Qui en particulier ne comporte pas donc la condamnation de la possession d'armes nucléaires. Je le disais, il y a très souvent une mauvaise interprétation du critère de discrimination, du deuxième critère que j'évoquais, où l'on estime qu'il condamne tout emploi de l'arme nucléaire. À aucun moment, aucun texte d'aucun pape ne condamne totalement l'emploi ou la possession d'armes nucléaires. Ce qui est condamné, c'est l'emploi de ces armes pour la destruction de villes entières. Ce qui est condamné, c'est effectivement des affaires telles que Nagasaki et Hiroshima, qui sont je ne vois pas comment on pourrait justifier, mais rien ne pourrait condamner un emploi qui ne viserait pas des villes entières. La guerre nucléaire sur mer, par exemple, enfin, on pourrait trouver bien d'autres affaires, mais je suis obligé donc d'abréger. Je vais conclure. J'ai longuement parlé de la violence et assez peu parlé de la force. Si dans le terme violence, il y a le radical viol, et j'ai bien lié violence à désordre, la force par contre est un reflet de la plénitude de ce qui est en ordre. La force, c'est l'ensemble ordonné des ressources matérielles, humaines, morales, mais cet ensemble n'est fort que lorsqu'il est ordonné. Force, harmonie, bien commun, unité. Tout cela est contenu, en fait, dans le terme de paix. Et selon la définition de saint Augustin, la paix est la tranquillité de l'ordre, c'est-à-dire l'accord qui résulte des choses quand elles répondent à la justice et aux besoins de la foi éternelle et divine. La paix n'est pas une donnée première, mais un résultat, un bien qui dérive d'autres biens, qui présuppose et qui exige comme préalable très justement l'ordre, la justice, l'harmonie entre les choses. La paix, c'est l'ordre. Je retiens de cette définition que la paix est une construction, qu'elle ne se réalise pas d'elle-même, qu'elle résulte du respect de l'ordre. La force est un état qui résulte de l'harmonie des choses. La force est aussi une vertu humaine, c'est-à-dire une attitude, une disposition stable, une perfection habituelle de l'intelligence et de la volonté, qui règle les actes, ordonne les passions et guide la conduite. La force, c'est cette vertu morale qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. La force dispose à aller jusqu'au sacrifice pour défendre une juste cause. Et aujourd'hui, la vertu de force n'a plus pour seule fonction de résister aux grands périls corporels, notamment à ceux causés par la guerre. On pourrait dire que l'adversaire ne se prend plus seulement à notre vie, mais à notre intelligence et à la nature même de la société à laquelle nous appartenons. La vertu de force dispose à une réaction habituelle au système de pression qui interdise à la raison et à la volonté
d'atteindre les réalités pour lesquelles elles sont faites et qui conduisent par une propagande intimidatrice et sans négliger la terreur à une idéologie créatrice d'un homme nouveau et d'une société nouvelle. Cet homme nouveau, déboussolé, est profondément marqué par la peur. Peur de l'avenir, peur du présent, peur du passé, peur de la bombe atomique. Les chrétiens ont peur d'être chrétiens. La vertu de force est ainsi très affaiblie. Et elle revêt donc actuellement une importance sans exemple dans le passé. J'achèverai par cette conclusion que Jean Housset donnait à Lausanne. Et donc, tant que la notion de force, tant que la notion d'efficacité ne s'allieront pas dans nos esprits à la notion de vérité, entendez à une connaissance suffisante de l'ordre même des choses, tant que pour être efficace, nous croirons préférable de laisser le vrai de côté, fondant plus d'espoir sur l'astuce de nos improvisations ou sur les seuls recours à la violence, nous perdrons le droit de nous plaindre d'une impuissance, d'une stérilité devenue chronique. Voilà, je vais la marquer là. Oui.
Donc je vais suggérer aux gens de vous rencontrer à l'extérieur.
Donc malheureusement, il y a un cours qui commence presque tout de suite. Si vous avez des questions, donc je vous conseille d'aller à l'extérieur de la salle et puis les poser à M. Berger. Il y a des livres derrière, on va les emballer en à peu près 5 minutes. Donc je vous remercie beaucoup de votre participation et je remercie M. Berger de cet exposé. Et ce soir, nous avons une autre conférence sur la désinformation médiatique. Merci beaucoup.